Et je crois que la honte, c'est ce décalage finalement, c'est ce que les autres projettent sur toi versus ce que moi je ressens à l'intérieur.
J'ai eu l'impression que mon corps, il m'appartenait plus.
En fait, ce que tu savais pas, c'est que t'es une planète à toi toute seule, avec tes cycles, avec tes saisons. Selon si t'ovules ou si tu te rapproches de tes règles, la manière de faire l'amour est différente aussi. Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terres Intimes qui a une saveur très particulière pour moi. Jamais je n'ai enregistré un épisode que j'aurais autant eu envie d'écouter plus jeune. Je l'imagine dans les oreilles de la jeune adolescente que j'étais et je suis fière. Dans cette deuxième table ronde de ce podcast, enregistrée au Salon International de la Lingerie, j'ai reçu trois femmes, Aurélie, Capucine et Cindy, pour parler du cycle menstruel. Et parce que la vie a ses moments de magie, je vous enregistre cette interview à mon premier jour de règles, ou comme j'aime les appeler avec mes proches, mes lunes. Il y a trois jours, alors que j'ai terminé le montage de la passionnante discussion que vous vous apprêtez à entendre, j'avais le moral plutôt bas. Un ami de longue date maintenant, le syndrome prémenstruel, était de visite. Le matin même, j'avais pleuré à chaudes larmes parce que j'étais fatiguée, parce que rien ne semblait marcher, rien ne semblait aller, et je ne me sentais pas la force de trouver des solutions. Et ce même vendredi soir, je me suis posée dans mon lit, un verre de vin et des chips sur ma table de nuit, et je me suis mise au travail. Je me suis plongée dans cette table ronde et dans les voix de mes invités, et je me suis rappelée ma puissance. La puissance de mon histoire, de l'histoire de toutes les personnes menstruées, et la puissance de ce cycle qui m'invite à toujours plus me connaître, me comprendre et m'accompagner. Dans un monde qui diabolise encore les règles, qui utilise les utérus pour enfermer les femmes dans leur corps et leurs émotions, je sens qu'une part de moi n'est pas à l'aise de vous dire qu'en fonction des phases de mon cycle, je pleure plus, et que lorsque j'ovule, j'exalte. Mais si je ne devais retenir qu'un mot des mouvements féministes, ce serait le mot « réappropriation ». Nous avons besoin de nous réapproprier nos corps, nos esprits, nos désirs et nos dons. Et nous avons besoin de reconnaître leur valeur et leur importance, peu importe ce que l'histoire en a décidé par le passé. Avec Aurélie, Capucine et Cindy, c'est ce que nous avons fait. Ensemble, nous avons retracé les aventures vécues avec nos utérus et nos règles. Nous avons parlé de nos colères, nos croyances, nos besoins et des outils que nous avons utilisés et que nous utilisons toujours pour sortir du grand tabou des règles. Cet épisode et ses voix sont pour toutes les jeunes adolescentes et pour toutes les personnes menstruées de cette belle planète qui souhaitent comprendre comment vivre en phase avec leur cycle et comment créer une relation différente avec leur corps et surtout leur utérus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour les filles.
Bonjour Juliette.
Bonjour.
Bonjour Juliette.
Merci beaucoup d'être là, c'est un plaisir d'être avec vous. On est dans une table ronde autour du cycle menstruel. J'ai l'impression d'être dans un cercle de femmes avec des copines, donc c'est très agréable. Aujourd'hui, on va parler des règles. Les règles, ça concerne la moitié de l'humanité, toutes les personnes menstruées. Et c'est pourtant très tabou. Encore, il y a plein de sujets qui sont tabous. Donc j'ai écrit des mots comme constipation, diarrhée, endométriose, douleur, mal-être, SPM, qu'on adore. Et tout ça, on n'en parle pas tellement. Alors on en parle de plus en plus. Mais aujourd'hui, j'avais envie qu'on raconte nos vies, qu'on parle de ce qui nous aide, de ce qui nous fait peur, de ce qui est compliqué pour nous, et qu'on soit vraiment dans le vrai. Et je sais qu'avec vous trois, c'est sûr qu'on sera dans le vrai. Donc juste quelques chiffres qui sont un petit peu inquiétants. En France, il y a presque un demi des personnes menstruées qui ont raté l'école à cause de leurs règles, un tiers qui ont vécu des moqueries, et 50% des personnes menstruées de moins de 35 ans qui pensent que c'est normal d'avoir mal. Et ça, c'est un vrai sujet, la douleur, qui est presque naturelle. Je fais des grosses guillemets avec mes doigts, pour les femmes. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de tout ça. Et la première question, c'est d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter, qu'on sache un peu qui vous êtes, et nous raconter quelles relations vous entretenez aujourd'hui avec votre utérus. Comme ça, on va commencer direct à fond. Aurélie, est-ce que tu veux commencer ?
Ok, je me lance. Merci, merci pour cette invitation, Juliette. Donc, je m'appelle Aurélie Doré. J'ai créé, co-créé et j'anime le podcast Ceci est ton corps depuis bientôt 3 ans. Et Ceci est ton corps, c'est vraiment un projet qui me permet d'aborder la place des femmes à travers le corps et d'aller interroger des femmes de toute génération pour parler de leur rapport à leur corps. Donc chaque saison met au centre une partie du corps comme une clé d'entrée dans l'expérience de ces femmes. Donc là, on en est à la saison 4 sur les poils et les cheveux. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Et c'est très drôle et très réjouissant. Et voilà pour la présentation, je crois. Et ma relation avec mon utérus, ouais. c'est intense dès le début. Je crois que c'est un peu love-hate relationship. Hate, quand je dis hate, je pense vraiment à la douleur, en fait, qui m'empêche de fonctionner certains jours. Et je suis encore, je crois, un peu dans cette, cette façon de voir les choses, même si ça tend à être plus doux. Il y a beaucoup plus de douceur maintenant, je pense, dans ma relation avec mon utérus. Je crois qu'il y a un petit peu de peur aussi, parce que je viens tout juste de fêter mes 36 ans. Et je me pose beaucoup de questions sur enfant, pas enfant. Et si enfant, comment, quoi, etc. Je fais congeler mes ovocytes il y a pas très longtemps, mais voilà. Donc, on va dire que c'est une relation qui est encore en train de s'apprivoiser, je trouve, sur plein d'aspects très variés. Et notamment les règles, ça fait partie, enfin, c'est une des briques de cette relation. Voilà.
Merci beaucoup. Capucine, est-ce que tu veux enchaîner ?
Mais bien sûr. Moi, je suis Capucine. Alors, je crois que je ne sais pas trop me présenter. J'aime pas trop me présenter, mais je vais me présenter quand même en disant que moi, je suis chanteuse, chanteuse lyrique. Je suis passionnée par le travail de la voix et le travail de la scène qui, pour moi, est intimement lié à un travail de relation à son corps, à son intérieur, à sa féminité aussi parfois, et qui je trouve est un chemin passionnant qu'on entreprend quand on commence à travailler sa voix. Voilà, je crois que c'est comme ça que j'ai envie de me présenter aujourd'hui. Et mon rapport à mon utérus, je dirais que je suis peut-être en phase de réconciliation, ou en tout cas, je lui tends la main aujourd'hui. Pendant très longtemps, j'ai considéré qu'il était inexistant, comme l'intérieur de moi, en règle générale, que j'ai vécu en disant « débrouille-toi tout seul, moi je m'occupe des trucs de mon côté et toi tu gères ». Et en fait, au fur et à mesure de ma vie, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je retrouve des sensations, des choses que j'écoute. Et là, j'ai été diagnostiquée il n'y a pas longtemps d'une endométriose sévère et profonde. Et j'ai compris plein de trucs sur ma vie. Et je me suis dit, oui, d'accord, OK. Donc, tout s'explique et tout se connecte un petit peu mieux. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je suis soulagée de savoir. Et donc, je tends la main et j'ai envie d'aimer ce côté-là aussi de moi, qui est un côté qui fait partie de moi, et de vivre avec. Voilà.
Merci beaucoup, Cindy. Et donc, moi, c'est Cindy, donc Cindy Sereni. Je suis art-thérapeute. Mon but, mon credo, c'est d'aider les femmes à se réconcilier avec toutes les parties de leur être, que ce soit leur corps, leur cœur ou même leur foufoune. Et je travaille aussi avec le jeune public, donc les enfants et les adolescents. Et du coup, ce que tu disais par rapport au fait que certaines jeunes filles loupent leur scolarité à cause des douleurs de règles, moi, je le vois au quotidien, au collège notamment. Et mon rapport à l'utérus, ça va. Je pense que je me suis jamais vraiment posé la question jusqu'à mes 25 ans, je pense. C'était pas tabou, c'était pas sale, mais juste on n'en parlait pas, quoi. Puis après, il y a eu tout un cheminement où je me suis dit, tiens, l'utérus, les règles, OK. Et j'ai la chance de ne quasiment jamais avoir connu les douleurs de règles. Donc, je pense que c'est ça qui m'a amené à ne jamais vraiment m'interpeller sur ça. OK, ça saignait, mais j'avais pas mal. Donc, c'était chiant une fois par mois, mais sans plus. Et depuis que j'utilise une nouvelle contraception, je découvre les douleurs de règles. Et là, je me dis, ah ouais, c'est ça ? Mais c'est chiant, en fait. Donc voilà, on en est là.
Merci beaucoup. Alors, le principe de cette table ronde, c'est qu'on partage toutes les trois. Donc, je vais vite fait raconter mon rapport à mon utérus. Parce que pour me présenter, je m'appelle Juliette. J'ai un podcast qui s'appelle Terres Intimes, que vous êtes en train d'écouter. Donc, c'est merveilleux. Mon rapport à mon utérus, moi, je pense qu'il a toujours été assez conflictuel parce que j'ai toujours eu des douleurs de règles sévères. Et on m'a toujours dit un peu que c'était normal. Et je comprenais pas pourquoi c'était normal, mais j'avais eu plein de conversations avec ma mère, ma grand-mère, qui ont toujours galéré et qui m'ont dit « bon, bah voilà, c'est comme ça, Donc j'ai un panel de médicaments antidouleurs. Je sais que lui il fonctionne bien en fonction de si j'ai une migraine ou si j'ai mal au rein ou si j'ai mal à mon ventre. Donc mon rapport à l'utérus, c'est, je dirais, comme Capucine, hein, de la réconciliation avec des moments où je me sens en amour de ce que j'ai avec mon cycle et en même temps des jours où j'ai très très mal, où je peux pas m'empêcher de juste être en colère. Ça a réveillé une colère un peu compliquée, mais sinon ça va. Donc réconciliation, et comme c'est un cycle entre joie, fierté, colère, joie, donc voilà, ça c'est là où j'en suis aujourd'hui. Mais j'ai des outils pour me réconcilier. Je pense qu'on a toutes des outils qu'on utilise. Merci beaucoup pour cette présentation qui, je pense, marque un peu les points de tout ce dont on va parler pendant cette table. Mais j'ai envie qu'on retourne au début, c'est-à-dire si vous vous souvenez de la première fois où vous avez eu vos règles et si vous pourriez le raconter. Donc là, je propose qu'on commence avec Capucine, si t'en as envie.
Mais bien sûr. Ouais, en fait, moi, je m'en rappelle assez bien, mais je me rappelle surtout de la sensation que j'ai eue dans mon corps au moment où je suis allée aux toilettes et j'ai baissé ma culotte et j'ai vu du sang dans ma culotte. Et en fait, j'ai eu la chance, j'étais en vacances, j'étais entourée, j'ai une mère qui a pu prendre en charge toutes ces choses-là. Donc j'ai quelque part, j'étais dans une situation un peu rêvée, je trouve, quand on découvre, si on y réfléchit, quand on découvre ses premières règles. Mais en fait, j'ai eu une sensation en moi. J'ai eu un poids qui s'est abattu sur moi. Alors, je ne sais pas si c'est de la peur. Je ne sais pas, je n'ai pas encore réussi trop à capter... Ce que c'était, mais je sais que ça m'est tombé dessus, boum, comme ça, genre la bombe qui explose. Et vraiment, moi j'en ai déjà parlé à des copines qui ont dit ouais, c'était génial, j'étais super heureuse, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. Moi, il y a juste eu un gros poids en moi qui s'est mis et où je me suis dit ah merde, tu vois, alors que j'étais jeune, j'avais 14 ans, je savais pas trop ce que... Je pense que je prenais pas la mesure des choses, j'étais un peu... Mais une espèce de... Je sais pas, entre de la peur et peut-être de la... Je saurais pas dire. Et en fait, je pense que très vite, j'ai fait « Ok, bon, ça, c'est bon, c'est fait, dans ma vie, on oublie, ça va fonctionner tout seul, et vas-y, démerde-toi tout seul, maintenant, go !» Voilà, moi, c'est le souvenir que j'ai de mes premières règles. Et après, les choses se sont faites où presque, j'ai pas eu beaucoup de douleurs au départ. J'ai pas eu de cycle un peu compliqué. Mais vraiment, je pense qu'aussi parce que je l'ai mis de côté. J'ai dit, ok, ça c'est fait, check. Ok, c'est bon, on continue à fonctionner, ouais. Les gars.
Ouais, pas et spécialement de conscience dessus ou rien.
Pas du tout.
Avant, aucune. Il y a quelques temps.
Et okay. Presque un truc. Pas de négation, mais de « ouais, ça existe, mais c'est comme ça, ça existe pour tout le monde, allez, ciao, à la prochaine, bye !» On en reparle dans quelques années, tu vois. Vraiment un truc comme ça.
Ok.
Voilà.
Et Cindy, c'était comment tes premières règles ?
Moi, j'étais beaucoup plus jeune, ok ?
Ouais.
J'ai eu mes premières règles à l'école en CM2.
Ah oui.
Et c'est rigolo parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Ma mère, ça faisait déjà quelques mois qu'elle m'en parlait, comme si elle avait pressenti, ok? Elle m'avait expliqué qu'est-ce que c'était que les règles, qu'est-ce que ça représentait à peu près et tout. Et moi, j'étais là, ok, d'accord, ça a l'air un peu chiant, mais apparemment, tu deviens une femme quand t'as des règles. Et donc, j'étais à l'école. Je sens un peu que je suis mouillée, mais c'est tout. Et je me dis, bon, il faut que j'aille aux toilettes. Je demande à mon prof pour aller, enfin, à mon maître, pour aller aux toilettes. Et là... Je m'aperçois qu'en fait, il y a du sang et je me souviendrai toujours, je me sentis honteuse parce que je me suis dit, tout le monde va le savoir et je me sentais pas bien et c'était comme si que pour moi, l'enfance était terminée. Enfin, il y a vraiment un peu un côté dramatique en mode, ça y est, j'ai mes règles, c'est terminé, maintenant je suis une femme et voilà. Et après, c'est tout, ça a coulé. Enfin, ça a coulé dans le sens où les règles ont fait leur petite vie. Chez moi, c'était pas tabou. On en a toujours parlé librement. Il y avait pas de. Mais c'est tout. Juste ça arrivait. Et là, je me suis dit, c'est comme si quoi, il y avait vraiment une rupture entre l'enfance et ça y est, tu rentres vraiment dans l'adolescence, la femme et voilà.
Merci Cindy.
De rien.
Aurélie.
Moi, je m'en souviens pas vraiment. Alors, c'était pas tabou, mais c'est pas pour autant qu'on m'avait donné beaucoup d'infos sur ce sujet. Donc, je savais que ça allait arriver. Mais j'étais pas non plus méga préparée à, je sais pas, enfin, voilà. On va dire que j'étais pas tout à fait préparée. Je pense que j'ai eu un peu de honte aussi. Moi, c'est arrivé, j'étais en cinquième et mon corps avait déjà beaucoup changé. Donc, c'était un peu la continuité de ce corps qui change et qui me dépasse, en fait. Il y avait une espèce de truc qui est plus grand que moi parce que je trouve qu'à l'adolescence, il y a ce truc que la majorité des jeunes filles ressentent de « Ah, ok, ton corps change et donc ton corps t'appartient plus vraiment. » Les autres commencent à le regarder, à se l'approprier, à le commenter. Ça y est, tu deviens... un objet dans l'espace public que les hommes ont le droit de commenter, etc., etc. Donc je crois qu'il y avait ce truc un peu qui me dépassait. Et donc il y avait un petit peu de honte et à la fois aussi un peu de colère. Je pense beaucoup de... Ah merde, elles sont déjà là et ça y est, c'est parti. Je savais que c'était... Dans ma famille, c'est très associé à la douleur. Il y avait des récits familiaux. Je sais que ma mère, par exemple, a failli louper son bac à cause de la douleur de ses règles. Donc, je m'attendais aussi à un héritage de douleur. Donc, c'était comme si le poids de l'héritage s'abattait un peu sur mes épaules. Et il y a eu ce truc de... Je crois que j'ai mis beaucoup de temps à le dire à ma mère. Enfin, beaucoup de temps, probablement quelques heures, en fait, à l'appeler, en fait, pour lui dire. J'avais un peu envie de garder cette information pour moi comme si c'était mon petit secret. Et que si jamais je le dévoilais ou je commençais à le diffuser à ma mère et à d'autres personnes... Et ça me dépasserait en fait. Donc bon, j'ai fini par le faire. Et elle a eu cette phrase un peu banale, ça y est, t'es une femme, qui à la fois veut rien dire du tout.
Ah, exactement.
Et je pense qu'elle était aussi, elle savait pas trop comment réagir, donc il y avait aussi un peu de gêne de sa part. Voilà. Donc maintenant, avec le recul, je trouve ça plutôt touchant et à la fois un peu triste de qu'on sache pas vraiment comment prendre en charge ça vis-à-vis d'une adolescente. Voilà, je crois que c'est à peu près ce dont je me souviens. Et toi, Juliette ?
Moi, je me souviens pas trop des premières fois que j'ai eu mes règles parce que je sais que j'ai menti en fait à mes copines en disant que je les avais eues et je me souviens de cette fois-là. Et je me souviens, j'étais en cours de français.
Je me souviens de la fausse foi, mais pas de la vraie foi.
Mais je crois que la vraie foi, elle était nulle. Donc non, mais en fait, je me souviens, j'étais en cours de français, j'étais avec une copine qui s'appelait Lou et en fait, j'avais envie de vivre ça. J'avais plein de copines qui avaient leurs règles et je savais, moi, j'ai envie aussi de me sentir femme et tout. Et je me souviens que j'avais dit « Ah, je crois que j'ai mes règles. » Alors j'avais demandé au prof « Est-ce que Lou peut m'accompagner ?» Et puis c'était nul maintenant, je me souviens. Et en plus, je me souviens, j'avais toujours un petit boxeur que j'avais depuis, je sais pas, mes 7 ans, que j'adorais avec des éléphants dessus. Et donc là, je suis allée genre aux toilettes, j'ai fait genre, je regardais, il y avait rien évidemment. Et Lou m'a filé une serviette, elle m'a expliqué et tout. Mais j'étais trop heureuse. Et je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est ce côté... Maintenant, je mets le mot de sororité avec toutes les copines qui sont là. Vas-y, je vais t'expliquer. Et en fait, je pense que je me souviens de cette fois-là parce que la vraie fois, c'était une période de séparation des parents. Anyway, j'ai pas beaucoup de souvenirs de 6e, 5e. J'ai vraiment un peu effacé. Et la première fois que j'ai eu mes règles, je crois que j'ai juste eu mal au ventre et j'ai vu du sang dans ma culotte et ça m'a fait peur et j'étais là. En fait, c'est pas du tout aussi beau que ce qu'on m'avait dit, genre tu vas devenir une femme, ça y est. Moi j'avais juste les seins qui grossissaient, les mecs qui me regardaient, surtout des mecs un peu plus âgés. Et je me souviens juste de ma mère qui était un peu fatiguée dans cette période, qui m'a donné une serviette, genre vas-y, tiens, bam. Il n'y avait rien de magique. Et donc je me souviens de la fois où mes copines étaient aux toilettes du collège, à me dire ah c'est trop bien et tout. Donc je pense que je vais garder cette fois-là dans ma tête. Mais effectivement, maintenant que vous dites le mot honte, c'est vrai qu'il y a un côté où c'est pas qu'on m'avait menti sur tu vas voir, c'est tu vas avoir tes règles, ça va être fou, ton corps va changer. Et en fait, c'est du gros bullshit sur la réalité de ce qui se passe quand on est ado et les moqueries au collège. Même si j'ai pas eu de moqueries directement, les mecs en parlent, enfin les garçons pas spécialement conscients, on parle vraiment comme un truc genre oh, c'est dégueu. Et donc, le seul reflet que j'avais, c'était « Oh, c'était dégueu ». Et je pense qu'il n'y avait aucun tabou dans ma famille, mais je ne crois pas avoir parlé de règles avec ma mère. Ma grande sœur avait eu ses règles avant, donc j'avais dû capter, mais j'ai zéro souvenir. Donc, cette idée de honte, j'avais envie qu'on plonge un peu dedans. Si vous vous connectez à l'énergie de honte, à quel moment vous l'avez ressenti et quand vous creusez, qu'est-ce qu'il y a dans cette honte pour vous? Est-ce que vous avez des moments qui vous reviennent en tête? Est-ce qu'il y a des sensations? Qu'est-ce qui fait? Parce que de toute façon, c'est l'inconscient collectif, c'est la honte d'avoir ses règles. Genre, reste chez toi. Je sais pas, dans certaines religions, tu peux pas faire à manger, tu peux pas aller dans certains endroits. Donc vous, est-ce que vous avez ressenti cette honte profondément à certains moments?
Je sais pas si je me suis déjà posé la question. Du coup, c'est intéressant. Je vais réfléchir en même temps que je te parle. Mais je crois que quand je me mets un peu dans la honte, c'est le côté vraiment ton corps te dépasse, fait quelque chose qui est associé un imaginaire collectif à la sexualité, au fait d'être pubère, de ça y est, de pouvoir enfanter. Enfin bref, il y a tout un tas de choses, je trouve, auxquelles c'est associé, qui sont en total décalage avec ce que moi je suis à l'intérieur de moi, en fait. Et je crois que la honte, c'est ce décalage, finalement. C'est ce que les autres projettent sur toi versus ce que moi je ressens à l'intérieur. En tout cas, ce que les autres pourraient penser que tu es prête à faire, prête à vivre, prête à dire, prête à montrer, versus moi qui suis encore une enfant. Et ça, en fait, ça a duré pendant très longtemps, en fait, ce décalage. Je crois que même, c'était une sorte de dissociation. Je sais plus exactement ce que tu disais, mais moi j'ai ressenti une forme de dissociation et ça, pour moi ça s'apparentait un peu à ce que tu disais, Capucine. Comme si je devais un peu sortir de mon corps, comme si mon corps appartenait aux autres et que du coup moi je sortais un peu de mon corps pour être dans mon espace et que, ouais, il y avait ce décalage entre les deux et du coup cette difficulté à peut-être répondre aux attentes ou en tout cas à l'image que je me faisais des attentes des autres. Je crois que c'est vraiment ça.
Ok. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même si j'ai eu mes règles tard, j'ai toujours été très grande et puis j'ai été formée vite, mine de rien, et j'ai eu un corps grand et adulte. Et on avait une réception de moi adulte quand j'avais 15 ans, on m'appelait madame et je me faisais draguer par des trentenaires. Et du coup, il y avait un décalage entre ce que j'avais l'impression d'être à l'intérieur et ce que je donnais à voir. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, j'ai eu l'impression que mon corps, il m'appartenait plus, effectivement, qu'il donnait pas à voir ce que moi je voulais qu'il donne à voir, qu'en fait il était pas représentatif, que mon enveloppe corporelle, c'était pas ce qu'il y avait à l'intérieur et qu'il y avait un vrai trouble par rapport à ça. Et moi, je sais que j'ai mis du temps, beaucoup de temps, à accepter mon corps et le côté féminin de mon corps pendant très longtemps. Ça a été hyper compliqué d'aimer mes courbes, parce qu'elles n'existaient que dans le regard que les autres avaient sur moi et elles n'existaient pas dans mon propre regard, parce que je ne voulais pas qu'elles existent. Donc, puisqu'elles existaient trop fort à l'extérieur, elles ne pouvaient pas exister à l'intérieur de moi, quoi. Je pense presque un truc comme ça. Donc c'est effectivement c'est un sentiment de honte, mais moi tout à l'heure j'ai pas pu mettre le mot honte parce que c'est pas celui qui m'est venu, et en vous entendant parler je me dis oui, effectivement c'est de la honte, mais c'est pas que ça, c'est un espèce de besoin de protection aussi, de truc de se dire je rentre à l'intérieur complètement et j'ai plus la maîtrise sur ce que je donne à l'extérieur, entre guillemets.
Moi, je pense aussi que ça t'arrive quand même dans une période de ta vie où t'es hyper vulnérable, t'es en transformation, tu te cherches, t'as tes règles qui arrivent. Toi, en tant qu'adolescente, t'es quand même super influençable et on te culpabilise à fond en mode « bah ouais, mais maintenant, t'as un corps de femme, donc si, en gros, tu dois te protéger si tu veux pas qu'il y ait tel ou tel regard sur toi. » Et en fait, toi, t'es encore une enfant et mettre une jupe ou mettre un t-shirt... et alors que t'as tes seins qui poussent et tu penses pas à mettre de brassière ou autre, et je suis d'accord avec vous sur le regard des hommes qui changent. Moi, j'ai été formée hyper tôt, à 10 ans je faisais déjà du C. Dans la classe, tout le monde se moquait de moi en mode « Ah, Cindy, elle est gros lolo, quand elle court, ça bouge. » Ah, génial, j'étais trop contente. Et je voyais en fait que le regard, par exemple, des copains de mon père, c'est bizarre, hein. Je sais très bien qu'ils étaient pas méchants, rien de ça, mais je voyais leur regard quand même changer sur la petite fille qu'ils avaient pu connaître. Et donc, pour revenir au sentiment de honte, je pense qu'il y a tout ça qui joue, il y a l'image que te renvoie la société sur qui t'es censé être, et il y a ta personnalité et qui toi tu es, et t'as pas envie d'être comme ça, et tout se confronte, et je pense que c'est pour ça qu'il y a un sentiment de honte aussi qui surgit. Voilà.
Merci beaucoup. Ça me fait penser, il y a Camille Froide-Vaumétry qui est une autrice philosophe qui a écrit beaucoup de livres sur le corps. Elle s'intéresse au corps, elle a écrit tout un livre sur les seins, tout un livre sur la grossesse, et elle parle de ces nœuds phénoménologiques qui arrivent dans la vie des femmes. Bon, c'est un mot un peu compliqué, mais en fait elle parle de l'adolescence et de la grossesse, et c'est ces moments où le corps des femmes change complètement sans qu'elles le décident, en fait, et que leur perception sur leur corps psychique, enfin, tout ce qui se passe en elles change complètement. Socialement, tout change. Et elles n'ont pas de contrôle dessus. Et en fait, elle dit à l'adolescence, c'est ça qui se passe et on est face à quelque chose d'hyper compliqué. Et en plus, la sexualisation, le moment où on devient beaucoup plus sujet qu'on devient objet. Parce que petite fille, il y a quand même une capacité d'action, d'agir. On est carrément formaté. Mais dès que le corps se met, le corps devient un carcan, le corps de femme, parce que bah, tu t'habilles plus comme t'en as envie. Le truc, quand je commence à avoir des seins et je pars à l'école, t'as pas du tout le réflexe de mettre un soutien-gorge, quoi. Et t'arrives à l'école et toute la journée, tu te dis... Et tu sais que tout le monde le voit. Et maintenant, avec le no bra, je trouve qu'on se réapproprie ce truc de « bah ouais, il y a mes tétons qui pointent » et en fait, peu importe. Mais cette honte, elle était présente. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et
si je peux rajouter quelque chose, vas-y. Juliette. Moi, c'est un truc, donc effectivement, qu'on a tous vécu quand notre corps change et tout ça. Et moi, il y a un truc qui m'a suivi et qui a ressurgi un peu comme ça adulte. C'est que comme j'ai de l'endométriose, j'avais des périodes où mon ventre gonflait. Et quand j'étais en crise, maintenant que j'appelle crise d'endométriose, je suppose, en fait, j'ai le ventre qui pouvait ressembler à un ventre de... Et j'ai toujours le ventre qui peut ressembler à un ventre de femme enceinte de 7 mois. Mmh. Et ben en fait, c'est j'ai retrouvé la même honte ou cette même impression d'avoir un corps qui m'échappe et d'avoir le regard de l'autre qui m'échappe par rapport à la vérité. Et ma hantise, c'était qu'on vient de me voir en me félicitant d'une grossesse parce qu'effectivement, j'avais un ventre de femme enceinte alors que juste voilà, c'est et je me suis longtemps demandé, mais en fait, voilà, maintenant tu as un truc médical, c'est posé, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que le changement de ton corps, comme ça, peut provoquer... Parce que oh, t'es OK avec ça, bon, ça te fait un gros ventre, mais on voit que c'est un truc qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui fait que tu es honteuse de cette chose-là et de la réception que les autres peuvent avoir de ce corps-là? Et du coup, je trouve que c'est un peu le même... c'est un peu le même...
cheminement de pensée.
Ouais, ouais, le même cheminement et la même... chose assez incompréhensible qui se passe en nous, qui n'est pas rationnelle, mais où tu te dis, OK, il y a une différence entre ce que je suis moi et ce qu'on voit à l'extérieur. Et voilà.
Mais il y a une citation de Simone de Beauvoir, je ne pourrais pas, je m'en souviens pas, mais elle dit « L'homme est son corps et la femme l'est aussi, mais ça ne lui appartient pas. » C'est une citation. Mmh. En fait, elle dit, puisque la femme, on est construit socialement, on existe dans le regard, en tout cas le corps lui appartient plus. Et je pense que les hommes ont cette question de neutralité. Enfin, le corps d'un homme est beaucoup plus neutre dans la société, en tout cas d'un homme blanc. Et ça, nous, notre corps, il nous appartient pas très vite. Et je pense que le moment des règles, inconsciemment, c'est le moment où on sent qu'il y a un truc qui va shifter dans nos vies. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est complètement passé. Mais l'idée de cette table ronde, c'est comment on fait pour vivre en phase, comment on fait pour se reconnecter à ça et justement se connecter à un sentiment de fierté autour de ce cycle, ou en tout cas de réappropriation du cycle. Donc, est-ce que vous pourriez présenter un peu... c'est compliqué de résumer toute sa vie jusqu'à aujourd'hui, mais un peu les étapes ou ce qui vous a amené à aujourd'hui au moins être consciente ou connectée au cycle, même si ça ne veut pas dire être en paix avec, mais un peu les périodes que vous avez traversées, les réflexions qui vous ont amené aujourd'hui à « OK, là, voilà quelle est ma relation avec mon cycle. » Voilà. Cindy, est-ce que tu veux commencer ?
Ouais. Alors, au début, comme je vous ai dit, moi, je m'en préoccupais pas plus que ça. Ça arrivait tous les mois, et puis voilà. J'ai commencé à avoir des petits copains. J'ai pris une contraception, la pilule. Et il y a 7 ans, j'ai tilté que la pilule, c'était peut-être pas bon pour le corps, avec les hormones et tout. Et en fait, je prenais une pilule qui arrêtait les règles. Donc, ça faisait 2 ans que j'avais plus de règles. Ma mère n'arrêtait pas de me dire « c'est pas sain, ton corps a besoin de se nettoyer et tout ». Et au bout d'un moment, je me suis dit « bon, bah, j'arrive à la fin de ma relation, là, je sais que je vais être célibataire dans pas longtemps, donc est-ce qu'il serait peut-être pas temps pour moi genre, d'arrêter la pilule et de retrouver un cycle menstruel ?» Et après ça, en est venue une quête de « ok, le cycle, ça fait ça, ça, ça sur mon corps ». Dans le sens où j'ai commencé à m'apercevoir que j'avais des hauts, des bas. Il y avait des moments dans le mois où je me sentais beaucoup plus énergique et beaucoup plus joyeuse. D'autres moments où J'étais hyper sensible, je pouvais pleurer pour un rien. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça serait pas... Il n'y aurait pas un rapport avec le cycle menstruel? Et donc, j'ai commencé à m'informer un peu et tout. Donc, j'ai découvert les SPM et je me suis dit, mais oui, c'est ça que je vis. Et donc, voilà. Et puis, je continue mon petit chemin et j'entre dans ma formation d'art thérapeute. La vie est bien faite parce que, à côté de ça, j'avais des amis qui étaient là, ouais, moi, il faut que je me réconcilie avec mes règles. Alors, j'ai pris le sang de mes règles, j'ai fait de la peinture avec. Il y en a d'autres qui se le mettaient sur le visage. Et moi, je disais, oh non, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et je voulais trouver un autre moyen. Et du coup, à travers mon processus d'art thérapie, je me suis dit, je vais me l'appliquer sur moi. Et en fait, j'ai dessiné mon utérus juste avant les règles, avant que ça coule. Donc, genre, tout confo, j'y ai mis des fleurs, j'avais fait un beau rose, c'était hyper cocooning. Et le après-règle, donc j'avais tourné la page et j'avais dessiné un utérus tout vide en mode, bah voilà, c'est tout nouveau, comme quand on emménage dans un nouvel appartement, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre et tout. Et juste ça, déjà, ça m'a permis de me reconnecter à ça. Et le fait de passer aux culottes de règles.
Tellement.
Et alors ça, bah du coup, en fait, tu dois les nettoyer, donc tu les fais tremper, tu les rinces et du coup, sans t'en rendre compte, tu mets tes mains dans ton sang. Et alors, je me souviens, au début, j'étais là, c'est pas foufou, quoi. Et au final, je me suis dit, c'est ton sang. Et j'étais trop contente de voir que mon sang était rouge, mais genre un beau rouge. Et je pense que ça, ça m'a aidée aussi à me reconnecter avec le fait que c'est pas sale. Et c'est que du sang, au final. Voilà. Voilà pour mon histoire.
Aurélie, t'as envie de partager ?
Ouais, carrément. Alors, il y a plein de choses. Attends, j'essaie de mettre dans l'ordre. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu des règles ultra douloureuses. Voilà, toujours cata. Donc, ça a souvent été une gestion de la douleur. Comment je fais pour gérer ma douleur? Qu'est-ce que je fais? Etc. Pendant très longtemps, on était sur des médocs ultra forts. Voilà. Et en fait, j'ai capté que j'ai eu des cycles ultra vraiment douloureux au point de me dire est-ce qu'il faudrait pas que j'appelle le SAMU là, parce qu'il y a quand même un truc qui cloche un peu. Bon, en fait, j'ai capté que j'avais de l'adénomyose, donc c'est de l'endométriose interne à l'utérus. C'est pas non plus très développé, donc c'est tout à fait gérable. Mais effectivement, beaucoup de soulagement, comme tu le disais tout à l'heure, quand il y a un mot qui est posé, quand il y a un diagnostic, on va dire. Donc pas mal de soulagement. Et depuis, ça va mieux. Moi, j'ai l'alimentation qui joue beaucoup. Ensuite, je me suis mis à prendre des trucs un peu plus... j'ai testé le CBD et ça fonctionne hyper bien aussi, j'ai trouvé, là, pour la gestion de la douleur, que ce soit en ingestion ou en juste massage. Et puis juste, en fait, d'essayer de fonctionner un peu plus avec mon rythme. Alors, en fait, même si je sais très bien que les SPM vont arriver, machin, j'oublie à chaque fois. Je sais pas pourquoi, mais j'oublie. Pourtant, c'est marqué sur clou. Je le sais, limite. Maintenant, je le marque dans mon agenda, mais quand même, j'oublie. Tu sais, d'un mois à l'autre, ça fait même pas... On est sur 28 jours, mais c'est toujours pas bien ancré, quoi. Donc, c'est drôle. Mais en tout cas, ouais, de savoir que... Effectivement, de jouer un peu avec mon cycle. Donc, maintenant, j'essaye de temps en temps... Quand j'ai vraiment genre une grosse réunion, je regarde où est-ce que j'en serai dans mon cycle et je suis en mode « Ah, bah peut-être à 3 jours près, je vais plutôt la mettre là parce qu'en fait, ce sera plus facile à gérer. » Donc ça, ça m'a pas mal aidée. Un truc, ah oui, il y a d'autres choses que je voulais partager. C'est, alors moi, j'ai organisé une table ronde sur l'art menstruel pendant le premier festival qui s'appelle Cyclé, le premier festival d'art menstruel. Et à l'occasion de cette table ronde, j'ai interviewé des artistes, des activistes, des danseuses sur l'art menstruel. Comment est-ce qu'elles se sont saisies du coup de ce sujet pour s'approprier leur cycle, etc. Les réponses sont très variées, mais ça m'a... Donc je vous invite à écouter cet épisode qui est passionnant. Mais moi, ça m'a donné envie. Et récemment, un peu sans... Voilà, tu parlais du fait de nettoyer tes culottes menstruelles. C'est exactement ce que j'ai vécu aussi. Ça m'a aidé d'ailleurs à... Voilà, parce que moi je suis pas du tout cup, j'étais plutôt en mode tampon et je trouve que culotte menstruelle c'est vraiment la parfaite option. Et en fait, je porte quand même des tampons de temps en temps et j'ai fait un shooting photo de mes tampons avec du sang et j'ai trop kiffé en fait. Ouais. J'ai trop kiffé. Je trouvais que c'était hyper beau, ça m'a fait penser à cette photographe qui a un côté rentré dans la matière qui s'appelle Lucille Boiron. Et elle fait des photos vraiment limite un peu... Tu sais, elle va photographier les veines, des ouais. trucs très... un peu crades et en même temps pas du tout crades, quoi. Un truc très, très animal en quelque sorte. Et là, j'ai eu cette espèce d'instinct de, j'avais envie de toucher mon sein, de le prendre en photo, un truc très, je sais pas, c'est mon corps, c'est mes fluides en fait, c'est à moi quoi. Et donc ça, ça m'a fait kiffer. Donc j'ai toute une petite série de photos de mes tampons. Je ne vais rien en faire, mais juste ça m'a fait plaisir. Voilà, je pense pas faire de l'art avec ça, mais ça m'a fait rire. Voilà, je crois que c'est à peu près ce que je peux dire. Mais en tout cas, ce qui m'a aussi aidée, c'est d'entendre les autres et de ce qu'elles font. Et je crois que vraiment, cette table ronde, elle m'a interrogée à la fois sur la danse. Parce qu'il y a une danseuse, il y a une artiste, il y a plusieurs artistes, il y a une ancienne députée. Et donc, d'avoir aussi tous ces différents points de vue, je crois que ça m'a permis d'appréhender ces moments-là différemment.
Ouais.
Et aussi de jouer un peu avec. Et de le voir plutôt sous un point de vue plus joyeux peut-être qu'avant, où c'était vraiment dans la douleur. J'avais l'impression d'être dans la douleur tout le temps parce que je souffrais en fait, quoi. Et là, il y a la souffrance, mais il y a aussi une envie de m'amuser peut-être avec tout ça. Ouais.
Bah, dans la table ronde, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a une danseuse qui dit que quand elle a ses règles, elle ne veut pas sortir de chez elle, elle a super mal. Mais elle dit, je sais que si je vais danser, je ne vais plus avoir mal après, ou en tout cas, ça va m'aider. Et c'est hyper contre-intuitif. Vraiment, quand j'ai mes règles et que j'ai mal, j'ai envie d'être chez moi, dans mon lit, bouillotte, personne ne me parle. Et en fait, cette idée que pour certaines personnes, vraiment la mise en mouvement, la connexion, la sensualité, ça peut réveiller quelque chose. Donc effectivement, c'est une très très belle table ronde. Vraiment, c'est assez, assez impressionnant et parfois contre-intuitif les solutions qu'on peut trouver. Oui. Capucine, toi, j'aime beaucoup ton parcours, donc je t'écoute.
Alors, moi, comme toi, Cindy, je crois que j'ai pris la pilule hyper tôt. J'avais 16 ans, donc c'est pas si tôt que ça, mais bon. Et en fait... je crois que le rapport à mes cycles et à mes règles était le même que le rapport à mon corps, c'est-à-dire inexistant, débrouille-toi tout seul et vas-y, moi j'ai des trucs à gérer, donc voilà, ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, je crois que la première fois où j'ai senti la nécessité de me reconnecter, mais vraiment très très fort tout de suite avec mon corps, c'est quand j'ai commencé à chanter, à travailler le chant. Et à me rendre compte qu'en fait, il y avait des trucs qui circulaient pas et qui doivent circuler quand même, normalement, d'habitude. Qu'il y avait des sensations qu'il fallait quand même avoir. Et que, ne serait-ce que la respiration, elle allait pas partout. Et c'est quand même bizarre. Donc, vraiment, de me dire... Ah ouais, en fait, c'est pas normal d'être aussi déconnectée et de parce que moi voilà la pilule j'avais quand même mes règles mais du coup t'es réglée comme du papier à musique voilà c'est t'y réfléchis pas t'as pas et basta et c'est presque mécanique c'est presque j'allais dire informatique c'est en dehors de toi quoi c'est calendaire c'est voilà strictement comme ça et du coup j'avais pas de douleur pendant les règles. J'avais pas de choses spécifiques pendant les règles qui faisaient que il y avait des trucs voilà. Donc le chant ça m'a vachement aidé à reconnecter, à essayer de sentir des choses et tout ça. Et en fait très vite aussi vers mes 25 ans, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs dans le ventre. Inexpliqué, qui n'était pas en rapport du tout avec mes cycles, a priori, et qui était un peu tout le temps de la fatigue, des douleurs au point de tomber dans les pommes, des gonflements de ventre inexpliqués, des choses qui venaient ponctuer ma vie ici et là, et qui étaient vraiment situées au niveau du ventre. Et le rapport à mon ventre a été un peu « Oula, qu'est-ce qui se passe là-dedans ?» Et au final, donc j'ai cheminé là-dedans. Je suis allée voir des dizaines de médecins. J'exagère. Je suis allée voir quelques médecins, mais qui m'ont très vite dit « Oui, ça doit être des problèmes au niveau des intestins, machin, bidule. » Voilà, que des choses. Je suis allée voir une gynéco en disant « Moi, j'ai entendu parler de l'endométriose quand même. Et du coup, ça a rapport avec vos cycles ?» je crois pas. Bon, bah non, c'est pas ça. Et en fait, très vite, on m'a dit juste détends-toi parce que t'es trop stressée. Ok. Je me détends parce que je suis trop stressée. Je me suis détendue, hein, évidemment. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et après, récemment, j'ai laissé tomber ma pilule. En fait... je ne la prenais plus, alors que j'étais obsédée par ma pilule à prendre. Il y a eu un moment, je pense, où je pense que ma tête voulait plus la prendre,
quelque chose en moi voulait plus prendre cette pilule. Je l'oubliais tous les jours et à un moment donné, je me suis dit, en fait, si je l'oublie tous les jours, c'est que c'est un acte manqué et qu'à un moment, il faut que j'écoute et que je l'arrête. Et en arrêtant cette pilule, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, les douleurs, elles venaient une fois par mois, deux fois par mois, toujours à peu près au même moment. Voilà. Donc un peu un parcours à me dire, en fait, l'instinct que j'avais eu est pas si mauvais. Et du coup, diagnostiqué, j'ai une endométriose. Et ça m'a vachement réconcilié, c'est-à-dire de comprendre que c'était pas dans ma tête. Il y avait vraiment quelque chose dans mon corps qui se jouait et quelque chose sur lequel j'ai pas totalement la main, mais que je peux m'approprier en fait presque quelque chose. Alors c'est tout récent, donc c'est encore très frais dans ma tête et peut-être dans quelques mois je dirais pas du tout la même chose. Mais en tout cas, moi, ça a été un soulagement total et le vrai pas pour une réconciliation complète. Du coup, tout ce que je peux utiliser, c'est effectivement le CBD. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est génial. Moi, en cas de douleur, c'est la seule chose qui peut me soulager. Et c'est quand j'ai découvert ça, c'était miraculeux. L'alimentation aussi, je suis d'accord. Tout ce qui est alimentation inflammatoire, etc., c'est des choses où j'ai pu réguler comme ça, comprendre aussi pourquoi certains aliments fonctionnaient plus sur moi, fonctionnaient moins. Ça a donné un peu une raison. Donc, ma tête et mon corps se sont dit « Ok, on est d'accord là-dessus, il y a une raison ». Moi, je sais que de prendre un temps le matin et de déterminer dans quel état je suis, je sais que je fais du yoga le matin et que ça m'aide énormément, ne serait-ce qu'à sentir effectivement si j'ai envie d'aller à l'intérieur, à l'extérieur de moi. Parce qu'en fonction du moment du cycle, soit tu as envie de rester chez toi dans ton canapé, effectivement, à rien faire, soit tu as envie beaucoup, tu es rempli d'énergie, tu as envie d'aller vers les autres. Moi, ça, c'est des choses qui m'aident beaucoup. Et après, je sais que j'organise aussi ma vie, et notamment ma vie de chanteuse, en fonction des cycles et de l'état dans lequel je suis. Et je travaille différemment. Les jours où j'ai mes règles, j'ai pas l'énergie qu'il faut. Par contre, j'ai l'ancrage au sol qui est terrible, qui est trop bien. Et du coup, tu vas puiser à l'intérieur des choses complètement folles. T'as des trucs de visualisation qui, d'un seul coup, vont avoir tellement plus d'importance et d'impact. Et les jours où t'es tout feu, tout flamme, bah, t'as un placement nickel, t'es rempli d'énergie et c'est trop bien. Et du coup, essayer de trouver la balance toujours, mais en écoutant et en te disant « c'est ok, c'est comme ça parce que je suis comme ça, je suis dans cette période-là. Si j'ai ces douleurs-là, c'est ok aussi. » Et voilà, et on fait... Et on en profite, quoi.
Bah, merci beaucoup. Je vais rebondir juste sur l'endométriose avant de parler de mon expérience avec le chant, parce que il y a des exercices qui impliquent fais comme si tu sens un tampon dans ton vagin. Il y a des exercices de chant, on est censé faire ça. Donc je vais juste rebondir avant sur l'endométriose, parce que juste il y a une nouvelle qui vient de sortir qui moi me rend dingue et j'ai pas d'endométriose. Juste, c'est une maladie qui touche une personne sur 10, qui a été longtemps ignorée. Donc, c'est 2 à 4 millions de femmes en France minimum. Et c'est de 7 à 10 ans d'errance médicale avant de déterminer si on a de l'endométriose ou pas. Et juste, il y a un test qui existe, un test salivaire qui prend 3 minutes à faire ou même pas. C'est juste, tu mets dans la bouche, tu sais si tu as de l'endométriose directe ou pas. Et donc, on a demandé à la Haute Autorité de la Santé si elle pouvait déterminer, enfin que ce soit remboursé par la Sécurité sociale, afin que ce soit accessible à tous. Et donc, ils ont dit que c'était super, mais ils ont besoin d'étudier l'utilité pour les femmes de connaître leur diagnostic. Donc, ils partent pour 5 ans de tests pour déterminer si vraiment c'est utile ou pas de savoir si on a de l'endométriose. Donc, c'est pas remboursé. Ce qui est, par rapport à ce que tu viens de dire, absolument absurde. Et absurde. C'est surtout que toutes les femmes en ont besoin. Ça...
Bien sûr.
Donc là, on vient de se faire arracher encore une opportunité de connaître ce qui se passe dans notre corps. Et juste cette idée de donner le pouvoir aux femmes de savoir ce qui se passe dans leur corps, ça a besoin d'être discuté pendant 5 ans. C'était la petite parenthèse particulière. Donc l'idée, c'est de ne pas hésiter à contacter, envoyer des mails à la Haute Autorité de la Santé pour leur dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Donc c'était la partie un petit peu militante que je trouvais importante. Pour le sujet, puisqu'on est dans le sujet de la fierté, de la joie, etc. Moi, il y a plusieurs outils qui m'ont aidée pour les règles. La première chose
Je pense que le chant m'a beaucoup aidée parce que j'ai commencé le chant il y a 5 ans, donc dans la même classe que Capucine, c'est pour ça que je l'ai rencontrée. Et notre prof, en fait, le chant, il y a vraiment toute l'ouverture du ballon autour du diaphragme, donc le souffle. Et il y a tout le soutien du chant qui est dans le chaudron. Avec l'utérus, etc. Et il y a des moments où pour sentir le chaudron, sentir le soutien, déjà faut se connecter au corps partout. Et il y a cette idée de notre prof nous dit souvent, en fait, quand tu chantes, tu as un tampon dans ton vagin et tu dois visualiser que tu le fais monter. Et après elle dit non, mais quand tu chantes, c'est un orgasme, il faut que tu chantes. Donc t'es obligé d'être dans ton corps et donc ça t'oblige à te demander qu'est-ce qui se passe. Et surtout quand on chante, donc comme Capu l'explique, c'est que quand on chante avec nos règles, on chante pas du tout pareil. On n'a pas du tout cette envie de projeter la voix. Le soutien, il est complètement mou. T'as mal partout. Enfin, même si t'as pas mal, en fait, c'est complètement différent. Alors que quand t'ovules, il y a un truc explosif qui va vraiment vers l'extérieur. Et c'est surtout le soutien en bas. C'est comme si t'avais plus de muscles. Je sais pas comment dire. Donc, t'es obligé de naviguer là-dedans et ça aide déjà à arriver en cours et de se dire, il y a des moments où moi je dis, bon, j'y arrive pas et je pense que notre prof capte très vite. Ok, là, elle y arrive pas parce qu'elle a ses règles, donc voilà comment on va travailler. Et il y a une sorte d'acceptation et d'accueil de ce rythme-là. Il y a vraiment cette phrase qu'elle dit tout le temps, c'est tu chantes comme tu es aujourd'hui. Si aujourd'hui tu peux pas chanter de telle manière, ben, on va travailler autre chose. Il y a tellement de choses à travailler. Donc ça m'a beaucoup aidé et je trouve ça assez passionnant d'être tu veux chanter, accepte qui t'es aujourd'hui. Il y a des moments où elle me disait j'avais envie de pleurer en mode il faut que j'accepte qui je suis. Le chant c'est de la thérapie, donc c'est un peu comme le théâtre, etc. Oui. C'est de la thérapie.
Ouais.
Et après il y a autre chose, c'est un peu ce que tu disais Aurélie, c'est les cercles de femmes. J'ai fait beaucoup de cercles de femmes depuis 4-5 ans. Aurélie t'organise des cercles, Cindy aussi. J'ai déjà fait des cercles avec Cindy et Capucine. Et en fait, d'écouter des récits de femmes qui juste disent « Bah oui, moi aussi j'ai mal, mais je suis pas OK avec le fait d'avoir mal. Voilà quel est mon lien à mon corps. Comment je navigue entre mon désir, les moments où j'ai envie d'arracher la tête de mon mec parce qu'il a pas mis la table correctement. Les moments où, je sais pas, je vais voir mon mec en chaussettes, je vais me dire « Mais il est tellement sexy !» Alors que le jour d'avant ou une semaine avant... Et donc juste d'avoir tous ces récits de réappropriation, ça m'a fait mettre énormément de paix sur accepter ce que je ressens. Parce qu'il y a aussi ce côté, quand on a nos règles, on est plus dans l'intériorité, on a besoin de rester. Et je trouve que ça va à l'encontre avec il faut produire, il faut être actif. Et par exemple, les personnes non menstruées, elles n'ont pas ce truc de... Elles n'ont pas ce moment dans leur mois où elles ont besoin de repli. Et donc cette culpabilité qui vient un peu avec là je suis molle et je suis en syndrome prémenstruel et juste vraiment j'ai besoin d'être à l'intérieur de moi et j'ai besoin de pas écrire ou produire ou avoir de réunions ou etc. Et donc ces récits de femmes, ça m'a vraiment reconnectée à beaucoup de choses. Et le dernier point, et ça je pense que j'en ai parlé dans une autre interview, c'est la sonothérapie qui est une pratique de relaxation que je suis sonothérapeute. Et je disais dans une autre interview, je sais pas si je suis sonothérapeute pour relaxer les gens ou me relaxer constamment. Parce qu'en fait, c'est une pratique tellement de connexion intérieure. Tu sens tous les liquides de ton corps vibrer avec les instruments. Et ça permet de réguler l'anxiété, réguler beaucoup de choses. Et après, l'ostéo. Moi, je vais voir un ostéo régulièrement qui m'a dit « Bon, si tu gardes de toute façon ton stérilet de cuivre, tu peux pas dire au revoir aux douleurs. On peut améliorer au maximum, mais on peut pas dire au revoir. » Donc cet accueil aussi de « Bon, j'en suis là, c'est OK. » Et ne pas être en colère de devoir mettre une contraception. Et ça, je l'ai déjà ressenti, ce côté de... En fait, je suis obligée. Et je suis passée de la pilule au stérilet parce que la pilule, déjà, tous les jours, t'as ce petit militaire qui te dit « Attention, parce que si tu l'as pas, tu vas tomber enceinte. Hein. » Et tu vois ton mec ou ton partenaire qui, lui, mais se pose jamais la question de la contraception. Et je sais que les règles, à chaque fois que je les ai, je parlais de colère en début. Et c'est la colère de, j'ai mes règles, je douille, j'ai un stérilet. Et cette colère-là à régler parce qu'il y a ce mélange de plein de choses différentes. En tout cas, pas mal de choses autour du cycle. Et maintenant, vu qu'on est dans un podcast sur l'intimité et la sexualité, j'avais envie de vous demander quel est l'impact des règles sur votre désir et comment vous le vivez, que ce soit le désir quand vous avez envie de faire l'amour quand vous ovulez et aussi faire l'amour quand on a nos règles. Quelle est votre expérience par rapport vraiment à votre sexualité? Qui est-ce qui veut commencer?
Ben moi, je peux commencer.
Vas-y, Cindy.
Alors moi, quand j'ai mes règles, j'ai pas envie de faire l'amour ou autre. J'ai envie d'être posée dans le canapé, qu'on me fasse des câlins, qu'on soit là pour moi, mais j'ai pas du tout envie qu'on touche le bas de mon corps, dans le sens où, non, là, il est qu'à moi, il est en travaux, laissez-le tranquille, quoi. Et par contre, à contrario, alors... Plus quand j'ovule, ok, mais sinon tout le reste du temps, moi j'ai une libido de ouf. Du coup, je vois que pendant l'ovulation j'ai beaucoup plus envie, mais en même temps, quand je n'ovule pas non plus, donc. disons que c'est l'envie est beaucoup plus spontanée quand j'ovule, le pic est plus fort, mais sinon tout le long du cycle, elle est quand même assez constante. Et quand j'arrive à mes règles, vraiment, là, juste, c'est non, stop. Ça, c'est pour moi et on peut être en connexion autrement. Et juste, j'ai juste besoin que tu sois là en soutien. Tu montres que t'es là, tu prends soin de moi. Mais il va rien se passer de plus, quoi. Vraiment, ça, là-dessus... Je sais qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de désirs pendant leurs règles. Et moi, pas du tout. J'ai juste envie qu'on me foute la paix. Et qu'on me laisse gérer mon truc et juste on me dise bah je suis là si t'as besoin et ça c'est super, voilà.
Moi ça a beaucoup changé depuis l'arrêt de la pilule en fait, parce que quand je prenais la pilule c'était constante, moyenne, constante, un peu tout le temps, mais en fait quand j'ai arrêté la pilule j'ai eu l'impression de lever une cloche et de me dire, ah oui, en fait, en fonction de ton cycle, c'est les montagnes russes, quoi. C'est qu'il y a des fois où t'as super envie, ou des fois où t'as pas... Du coup, d'un espèce de truc constant, oui, j'ai envie, mais comme ça, quoi, je suis passée à des sensations de fou et de reconnexion vraiment avec moi-même, et de pouvoir me dire aussi qu'il y a des moments où j'ai pas du tout envie. En tout cas, d'être plus en conscience des moments où j'avais envie et pas envie. C'est comme ça, et en fait, je le ressens physiquement vraiment très fort. Et moi, je suis comme toi pendant mes règles. C'est que pour moi, que à l'intérieur. Donc, c'est pareil. Moi, je trouve que le rapport au monde extérieur, aux autres, change beaucoup en fonction de ton cycle. C'est-à-dire, il y a des moments où tu as envie d'être complètement à l'intérieur de toi et des moments où tu as envie d'être vraiment vers les autres, d'aller vers les autres. Et c'est la même chose dans la sexualité. Et moi, je suis comme toi. Pendant mes règles, j'ai juste envie de me chouchouter, d'être à l'intérieur et de me dire, OK, on va redémarrer, mais il me faut un petit temps avant de redémarrer. Et après, la libido est constante. Et moi, vraiment, l'ovulation, c'est pic de ouf, où tu dis waouh, un rien, tu sais, t'es au taquet, quoi. Un rien stimule et un rien excite, tout simplement. Et puis après, voilà. Et puis après, tu repasses dans la phase, où t'as tes règles et voilà. Donc moi, c'est vraiment, j'ai découvert. Qu'il peut y avoir des hauts et des bas plus loin que ce que je pensais qu'il pouvait exister, quoi.
Et du coup, j'ajoute un truc. Ouais. Mais c'est vrai que pendant le cycle, j'observe que il y a quand même, selon si t'ovules ou si tu te rapproches de tes règles, la manière de faire l'amour est différente aussi. Ouais, tu vois, par exemple, quand t'ovules, enfin, je sais pas vous, mais quand moi j'ovule, du moins, mes rapports sexuels sont un peu plus intenses. Pas bestial, loin de là, mais il y a une énergie différente que, par exemple, quand je suis en SPM, je sens que j'ai besoin que ça soit beaucoup plus doux, plus lent. Et donc voilà, c'était ma petite parenthèse.
Ouais, je suis d'accord.
Alors, je te rejoins tout à fait. Moi aussi, j'ai eu 10 ans de pilule et du coup, une espèce de cloche au-dessus du fonctionnement de mon corps. Et quand j'ai arrêté la pilule, là, il y a quand même, j'ai découvert qu'en fait, effectivement, il y avait des variations. Donc, ça, c'était assez intéressant. Alors, en fait, je pense que je suis à peu près comme vous, donc je vais pas redire, mais c'est à peu près la même chose, on va dire, dans les grandes lignes. C'est quand même assez variable d'un cycle à l'autre, je trouve, donc ça dépend aussi de beaucoup d'autres facteurs. Finalement, c'est clairement pas que où est-ce que j'en suis dans mon cycle qui va déterminer mon niveau de libido. C'est beaucoup plus varié et nuancé que ça pour moi. par contre, quand j'ai mes règles, moi, j'utilise vraiment la masturbation comme un outil pour faire passer la douleur, en fait. Ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important. Un des outils de l'arsenal que j'ai en termes d'outils pour passer au-delà de la douleur ou soulager, on va dire. Et j'ai envie qu'on me laisse tranquille, mais j'ai très envie qu'on s'occupe de moi, qu'il y ait beaucoup de tendresse et de douceur. Et ça peut être via la sexualité aussi. Donc, j'ai pas forcément envie d'être toute seule dans mon coin. Il y a même un côté, en fait, ça rejoint même ce que je disais tout à l'heure avec le côté, j'ai pris en photo mes tampons, mon sang. Limite, je suis dans un truc de vas-y, j'ai envie d'expérimenter. Enfin, je sais pas, ça, un truc très marrant, en fait. Donc, j'ai limite envie un peu, tu vois, tu parlais d'un côté bestial. Bah, je pense que ça pourrait m'arriver d'être dans ce truc-là. Et limite d'être dans un mode vas-y all fluid out, on y va, on s'amuse, enfin genre pourquoi pas, tu vois. Mais c'est très variable selon les moments de.
Mais tu sais aussi, très varié. Je pense qu'il y a toute la logistique derrière que quand tu dois faire l'amour avec tes règles, et ben alors attends, parce qu'il faut mettre une serviette parce que sinon ça va tâcher les draps.
Est-ce que j'ai la flemme ou est-ce que j'ai pas la flemme de faire tout ça?
Il y a la flemme en jeu.
Tout à fait d'accord. Ouais.
Juliette, et toi?
Moi, c'est un peu pareil que vous. C'est-à-dire que j'ai arrêté la pilule il y a 4-5 ans. Je me suis vraiment reconnectée. Je pensais que j'avais pas trop de désir. J'avais un peu perdu ça. Et quand j'ai arrêté la pilule, ça a mis un an pour que mon cycle, je pense, revienne naturel. Et il y avait vraiment... Je l'ai remarqué parce que j'étais en cours. Et il y avait des mecs que je trouvais, tu vois, inintéressants de manière générale. Et il y a des jours, je me disais, mais lui, je peux me le faire n'importe quand. Et en fait, il y a le côté où tout devient impossible. Et c'est ces moments-là où je j'en parle à des copines. Je disais, mais d'où lui Et après, j'ai commencé à capter. Je me disais, ah, j'ovule. Et tu sais, c'est vraiment le côté où tout devient possible. Et ça, c'est... J'adore maintenant ressentir cette vie. En fait, c'est vraiment une vie à l'intérieur de moi. Il y a une sorte de pétiment tout le temps de da 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 lui da da. Et évidemment, c'est quelque chose que je mets dans ma relation parce que mon mec. Mais en fait, c'est surtout cette énergie qui est là. Et moi, ça peut m'arriver d'avoir du désir pendant mes règles, mais je me demande si ce désir, c'est pas faussement un besoin de qu'on s'occupe de moi, de tendresse, c'est vraiment... Mais je trouve qu'en général, mes règles vont durer 4-5 jours. Les deux premiers jours, je vais être dans la douleur. Donc, de toute façon, dans la douleur, tu ne me touches pas. Et là, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin de la reconnaissance de la douleur que j'ai. Comme si, par rapport à cette colère qui me vient quand j'ai mal, que quelqu'un soit là et que mon partenaire soit là et vraiment prenne soin de moi, j'ai l'impression que c'est de la reconnaissance et ça devient un teamwork, en fait, les règles. Mais j'ai très vite du désir 2-3 jours après. Ça peut vraiment remonter en flèche et là, jusqu'à l'ovulation. Et ce que je trouve aussi faux, c'est la différence de plaisir pendant le sexe en fonction de là où j'en suis pendant mes règles. Par exemple, je vais plus le cycle avance, moins je vais avoir de facilité à avoir un orgasme facilement, par exemple. Et ça, au début, ça me rendait ouf. Je me disais, mais je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi c'est si compliqué? Et pourquoi il y a des jours, c'est beaucoup plus facile? En fait, j'ai vraiment vu la différence en fonction du cycle. Et donc ça, c'était chouette. Parce que quand le rapport au plaisir est délicat, quand le plaisir féminin, c'est un tout autre sujet qui est l'orgasme féminin, tout. Et même, il y a des moments, tu vas moins sentir à l'intérieur, beaucoup plus à l'extérieur. Des moments, c'est complètement le contraire. Et le fait de poser des mots ou un ok, en fait, mon cycle, il est comme ça, donc c'est ok, ça aide. Donc oui, sinon, en tout cas, oui, plutôt les mêmes expériences. Mais j'allais justement, c'est magnifique cette transition, grâce à vous, je vous remercie, justement demander de quoi vous avez besoin quand vous avez vos règles, si vous avez des partenaires ou des amis, ou de quoi vous avez besoin pour être soutenu. Voilà, moi, c'est vraiment du cocooning. Et là, par exemple, on était en vacances et j'ai eu mes règles. Un jour, on préparait un voyage, enfin une journée touristique, et je me suis couchée sur le. On était à la plage. Oui, il y a 2 semaines, j'étais au Brésil, et on se couchait à la plage. Et je lui ai dit, est-ce que je peux juste rester là et tu t'occupes de tout? Et en fait, c'était vraiment dans le respect de qui j'étais, sans mettre de la culpabilité sur t'exagères. C'était vraiment ok, vas-y, je m'en occupe, et de me sentir portée. Je sais que moi, ça m'aide à mettre vachement de paix sur ça. Et sinon, les bouillottes. Et franchement, les antidouleurs. Je vais pas mentir, je prends encore d'antidouleurs parce que sinon, j'ai tellement mal que je suis tendue, je me bloque le dos, faut que j'aille chez l'ostéo, je serre les mâchoires. Enfin, c'est tout un cercle vicieux quand j'ai mal. Donc, les antidouleurs sont des partenaires aussi très importants pendant les règles. Voilà. Mais si vous, quels sont vos besoins, vos envies, en plus de ce que vous avez déjà présenté?
Moi, je crois que c'est de me prioriser, enfin de prioriser, de mettre au premier plan les besoins de mon corps, chose que j'ai pas fait, je pense, pendant longtemps. Donc c'est clairement de ça, de reconnaissance aussi de la douleur par moi et par les gens qui m'entourent. En fait, depuis quelques mois, je vis dans un co-living avec 13 personnes et donc j'en trouve toujours un là. Il y en a un qui passe à côté de moi. Je suis en mode, j'ai mes règles aujourd'hui, il faut que tu t'occupes de moi. On sait pas sur qui ça va tomber, mais ça va tomber sur quelqu'un. Merci les colocs, si jamais vous écoutez. Donc clairement, j'ai besoin de ça, d'antidouleur. Mais bien sûr, je me suis mise à prendre l'antidouleur avant même que la douleur arrive, parce que j'ai capté que si la douleur s'installe, j'en ai pour des plombes avant qu'elle s'en aille, versus si je suis en pré-médication, alors ça va beaucoup mieux. Donc j'ai besoin de tout ça. Et après, c'est assez variable selon les cycles et selon le mois et selon mon état d'esprit du moment. Ça peut être, j'ai envie de passer la journée à la maison avec une bouillotte à regarder un film, ou j'ai envie d'être avec mes copines, ou j'ai envie, voilà, c'est très variable. Donc, il n'y a pas un truc en particulier, mais j'ai besoin de prioriser la douleur, et donc antidouleur, CBD et masturbation sont le trio gagnant pour moi.
Et ben moi, quand j'ai mes règles, et peut-être ça commence déjà avant les règles. Moi, c'est pareil que toi, j'ai des SPM un peu violents, donc je peux être d'un seul coup très émotive ou sentir mon corps tout flagada, tout flasque, et vraiment une fatigue intense et une espèce de porosité au monde qui est vraiment un peu trop intense pour moi dans ces moments-là. Et je crois qu'en fait, dans ces cas-là, j'ai besoin de solitude et de, c'est pareil, de me prioriser moi, de m'occuper de moi. Et je pense pas que ce soit le moment où j'ai forcément besoin de la douceur de l'autre. J'ai plus besoin d'avoir le temps pour m'apporter cette propre douceur-là à moi. Et je crois que, voilà, dans mon couple, on a l'habitude, on marche vraiment comme ça. Mon chéri et a vraiment compris qu'il y a des moments où j'ai besoin d'être vraiment toute seule. Et que ces moments-là font partie des moments où il peut être là. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir besoin de, même mes émotions trop fortes, d'avoir à les gérer moi-même. D'avoir envie de les prendre en charge moi toute seule. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Moi, j'ai pas beaucoup, pour le coup, j'ai de l'endométriose, mais c'est pas pendant mes règles que j'ai le plus de douleurs. C'est au moment de l'ovulation que moi, mes grosses crises arrivent. Donc j'ai pas de douleurs hyper intenses pendant mes règles. C'est presque le début de mes règles et presque un moment où du coup, je peux faire le plus d'introspection, parce qu'en fait, c'est le moment où je suis déchargée je suis jamais déchargée complètement des douleurs, mais où en tout cas j'arrive à un stade de tranquillité un peu. J'ai l'impression d'être dans un besoin de tranquillité et de rapport de moi avec moi. Voilà.
Très bien. moi déjà, je suis pleine de gratitude pour la vie, parce que je me dis que j'ai été préservée quand même. Enfin, quand je vous écoute, je me dis que j'ai été préservée de toute la douleur, parce que sincèrement, j'ai jamais eu, j'avais mal, mais je pense que c'est chillou, quoi. Et depuis que je suis passée au stérilet au cuivre, là j'ai mal, mais j'ai pas besoin d'antidouleur. Enfin, c'est gérable, quoi. J'ai pas. C'est pour ça que je me dis merci déjà. Et quand j'ai mes règles, bon, actuellement, je suis solo, mais quand j'étais en couple, j'avais besoin de me dire, OK, l'autre est là comme béquille et il est reconnaissant, en gros, que je supporte ça, parce que c'est un cadeau de donner la vie et c'est ça qui fait qu'on donne la vie. Donc, en gros, je respecte et je célèbre tes règles, parce que sans elles, je serais pas là, parce que ma mère aussi doit avoir des règles et patati patata, OK. Et sinon, quand je suis solo, j'aime bien être un peu dans ma bulle. D'ailleurs, c'est rigolo parce que toujours un ou deux jours avant mes règles, souvent je vais voir ma sœur, parce que j'habite avec ma sœur, et je lui dis, je me sens moche en ce moment et tout. Et elle me dit toujours, tu vas voir tes règles? Et je suis là, ouais, ça va arriver, j'ai hâte, en mode, vivement qu'elles arrivent, comme ça, je me retrouve trop canon et c'est génial, tu vois. Et ouais, juste, non, j'ai besoin d'être tranquille dans mon cocon et de sentir que. Y a des gens qui sont là si j'ai envie de parler, si j'ai envie de chouiner, parce que c'est OK de chouiner. Et mais qu'il soit pas intrusif, qu'il soit là si j'en ai besoin, comme une béquille, mais pas d'intrusion si j'ai envie d'être seule avec mon lot de consolation, voilà. Donc bouillotte forever pour moi.
Ouais. Ouais,
et vraiment, voilà. Donc courage, bravo les filles.
Je suis tellement d'accord, moi aussi je me trouve tellement moche quelques jours avant mes règles.
C'est terrible, c'est terrible.
C'est un truc de ouf. C'est
genre tu mets tes vêtements et t'es là, oh ah ouais. Je suis gonflée, je suis grosse, y'a rien qui me va.
Tout change quoi, rien ne change mais tout change, c'est impressionnant.
Et tu sais, je pense qu'il pourrait être sympa, c'est de prendre une photo de toi, juste de ton visage, avant tes règles et ton visage après les règles. Voir est-ce qu'il y a quelque chose qui change vraiment, tu sais. Ou est-ce que c'est vraiment juste la perception et ton état émotionnel qui fait que tu te vois.
Mais les seins changent.
Oui,
moi je suis toujours en même temps, ils sont mous de ouf. Et après, je suis là, oh, ils sont bien. Et ça change là. Et avant les règles, souvent, ils sont assez peps. Et après les règles, ils ont perdu toute leur joie. Mais en même temps, c'est le moment où je me sens bien, donc je me sens belle. Mais je sais que il y a des moments où je suis. Là, par exemple, c'est ouf parce qu'il y a 3 semaines, j'étais tendue et j'ai pris la tête à mon mec pour un truc absurde. Et en fait, j'ai eu mes règles 2 jours après. Et je me suis dit, ah, tu sais, en fait, il avait critiqué un de mes vêtements, tu vois, et j'étais là. Je sais que je suis arrivée dans la salle de bain en disant, je me sens moche, je sais pas pourquoi ça arrive pas. Et en fait, mais c'est fou ce que tu disais, on oublie.
Ah mais c'est
pas
incroyable.
Compliqué de prendre ton calendrier et de te dire, attends, ça fait 27 jours, 26 jours que j'ai eu mes règles, si je me sens comme une merde aujourd'hui, c'est normal.
Mais du coup,
et
tu vois,
tous les mois.
Je pense aussi l'utilité que ton mec sache où t'en es dans ton cycle. Comme ça, il se dit, bon, bah, ok, même si c'est pas une généralité, je veux pas dire, on dit aux femmes, c'est bon, t'es énervée aujourd'hui, t'as tes règles. Je veux pas dire, enfin, je veux pas faire cette généralité, mais ça peut aider aussi à comprendre où en est ta chérie émotionnellement ou
comme n'importe quel autre événement de la vie en fait. Si t'es en train de traverser, je sais pas, un changement de boulot ou n'importe quelle autre chose, c'est un des paramètres à prendre en compte. Je suis d'accord.
Toi, quand tu subis un deuil, quand la perte de quelqu'un, bah tu le dis. Tu dis j'ai perdu ma mère, mon père, mon frère ou ma sœur, j'en sais rien. Et comme ça, on prend en considération ce que tu vis. Et ben, je pense que quand ton mec suit aussi ton cycle, il s'aperçoit aussi que bah là t'entres dans ton ovulation, donc là tout va super bien, tu peux peut-être rigoler un peu plus avec lui sur certains sujets, et quand t'arrives vers les règles, tu te dis bon bah là on va peut-être pas aller sur ce sujet-là parce que c'est touchy, je sais qu'elle peut s'emballer vite, elle va pas comprendre ou autre, tu vois. Enfin, je pense que ça peut aider aussi la communication.
Et puis même d'inclure l'autre aussi, enfin c'est un... Je veux pas mélanger règles, contraception, mais je trouve que c'est aussi une façon d'inclure l'autre, quel que soit son genre d'ailleurs, mais d'inclure l'autre dans ce que tu vis et dans un truc qui se fait aussi un peu à deux quand t'es en couple, quoi.
Ouais, exactement.
Complètement. On arrive à la dernière question. Et la dernière question, c'était si vous aviez une petite fille ou si vous aviez vous-même petite fille en face de vous qui allait avoir ses règles, qui allait traverser ça, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ?
Tellement de choses.
Oui. Vaste sujet.
Bon, je commence.
Vas-y.
Donc moi, ok. J'ai une petite fille en face de moi et elle va ou elle a ? Ou elle vient d'avoir ?
Elle va.
Elle
ou
va
elle a ? Je sais pas.
Qu'est-ce que tu veux ?
Ok, bon, voilà. Ma petite fille, ok, elle vient d'avoir ses règles. Qu'est-ce que moi j'aurais voulu qu'on me dise en fait le jour où j'ai été voir ma mère et je lui ai dit ça y est maman, je crois que j'ai mes règles, ok ? Je pense que j'aurais... Du coup, je vais le prendre du point de vue de moi.
Ouais.
C'est plus facile pour moi. J'aurais aimé qu'on me dise, en gros, c'est pas grave. OK, ça va être chiant. Il y a des jours où tu pourras pas faire certaines choses parce que t'as tes règles. Mais c'est aussi quelque chose de super chouette. Ça permet de créer la vie. Ça nettoie ton corps. Et c'est pas une fatalité, en fait. C'est pas parce que t'as tes règles que tu deviens telle ou telle personne. Ça t'appartient et c'est à toi de grandir au rythme que t'as envie. C'est pas parce que t'as tes règles, c'est pas parce que la vie te les envoie à cet instant T que t'es obligé de suivre le rythme. Je pense qu'il y a vraiment la notion de rythme pour moi qui fait que t'as tes règles, ok, mais... Tu restes quand même une enfant et t'as pas besoin de grandir trop vite parce que tu les as. Je pense que je partirais là-dessus. D'ici là, j'aurais eu le temps d'élaborer quelque chose. Hein.
C'est pas mal déjà. Je pense que je dirais un peu comme toi. Je pense que je rajouterais quelque chose du style... Chaque femme et chaque cycle est différent. Donc ça va aussi être à toi de... En fait, c'est le démarrage pour commencer à comprendre comment ton corps fonctionne, qu'est-ce qui va se passer pour toi, comment tu vas le gérer au fil du temps avec toi-même. Je pense qu'il y aurait vraiment ce côté... c'est un outil pour apprendre à connaître ton corps et c'est à toi de savoir comment tu... Qu'est-ce que tu vas en faire. Sans toi puissante d'avoir tes règles, ça veut dire que ton corps fonctionne. Ça veut dire que, voilà, il est fort, quoi. Je pense que je lui dirais aussi... je pense que je dirais un truc autour de la puissance. Ton corps fonctionne. Les règles, le sang des règles, c'est pas n'importe quel sang. C'est un sang qui contient des cellules souches. Donc, c'est quand même un truc de ouf. C'est des cellules super puissantes. Donc, je pense que j'aimerais mettre un truc de fierté versus la honte que moi, j'ai pu ressentir.
Ouais.
Je pense que j'aimerais remplacer les deux et lui dire... Sinon, lui dire aussi, si tu te sens honteuse, c'est aussi normal, c'est OK. Mais viens, vas-y, on en parle. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et je pense que je lui dirais, c'est pas normal d'avoir mal. Donc, si t'as mal, on va trouver des façons de faire en sorte que tu puisses gérer cette douleur et que ça ne t'empêche pas de faire des choses... Parce qu'il n'y a rien, moi, qui m'énerve plus beaucoup de colère, comme ce que tu disais, Juliette, aussi, qui m'énerve plus que de sentir que je ne peux pas faire quelque chose parce que mon corps m'en empêche. J'ai l'impression que je me retrouve encore, comme quand j'étais plus jeune, moi contre mon corps versus ce que j'ai plus du tout envie de vivre aujourd'hui. J'ai envie que ce soit moi et mon corps dans un seul et même être mon corps et pas être contre mon corps ou machin. Enfin, bon, voilà. Donc, ouais, je pense que je dirais tout ça, mais fierté et voilà. Ouais, c'est ça.
C'est génial. je prends aussi. Moi, je crois que je dirais, mais un peu la même chose que vous deux, hein, mais du coup, qui fait écho avec moi, d'écouter, de faire confiance à son instinct, à la fois dans le positif et dans le négatif, c'est-à-dire dans ce qui se déroule bien et ce qui se déroule pas bien, parce que je crois qu'on sait quand on a des douleurs qui sont pas normales. Je crois qu'on sait que quand il y a des choses qui devraient pas aller jusqu'à ce point-là, mais qu'on sait aussi quand il y a des choses qui fonctionnent. Je crois qu'on a un instinct qui est très bon, en fait, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et que c'est nous qui avons le meilleur. Et que, du coup, il faut vraiment le prendre comme quelque chose qui fait partie de soi, qu'on écoute et qu'on sait. Enfin, voilà. Et que c'est le début d'un chemin. Et d'un beau chemin qui va s'inscrire et qu'on va apprendre au fur et à mesure des années, que les choses vont changer, seront jamais vraiment pareilles, mais que c'est toi qui maîtrises, quoi. C'est toi qui es le capitaine du bateau, quoi, en gros. Quel beau bateau. Et voilà. Et je crois que la notion de fierté, effectivement, elle est hyper importante et elle est hyper porteuse, quoi. Mais c'est vraiment ça qu'on... J'aurais envie de donner aussi, je crois.
C'est trop drôle quand même, parce que j'ai l'impression, genre, on est là en mode « Ouais, les règles, c'est trop cool, genre fierté. » Enfin, c'est pas trop cool, mais dans le sens où on se réapproprie le truc, fierté. Et là, il y a la petite musique qui est toute joyeuse dans son « Nanana ». On se croirait dans un film en mode « Elles ont compris, yeah, c'est gagné, tu vois. »
La comédie romantique avec les règles.
C'est ça, c'est le moment du film où on réalise ça, collectivement que « Ah ouais, c'est cool. Ouais, » ouais,
sens, c'est j'écoutais la musique, ça me faisait trop rire, je me disais...
Bah, c'est assez cool de finir sur cette énergie. Moi, je vais juste... Je trouve ça bizarre de finir avec mon petit témoignage. Donc, anyway. Moi, je dirais... Déjà, je ferais une teuf. Parce qu'il y a ce truc de tradition, de célébrer. Mais je ferais pas une teuf. Tu dirais, ça y est, t'es une femme. Avec tout ce que ça implique comme injonction horrible. Je dirais juste... En fait, je pense que je dirais... Moi, ce que j'aurais aimé aujourd'hui, c'est le côté... En fait, ce que tu savais pas, c'est que t'es une planète à toi toute seule. Avec tes cycles, avec tes saisons. Et il se passe plein de choses. Et j'essaierai de mettre en avant le côté chance. En fait, c'est une chance incroyable d'avoir cette connexion à l'intérieur de toi, tes émotions, à apprendre à naviguer dedans. Et j'aime bien le côté où, en fait, toi-même, t'es une petite planète sur la planète, dans l'univers. Et avec un petit côté assez magique. Et j'essaierai peut-être avec la chance de parler de puissance, parce que ça offre quand même c'est une invitation à se connecter à soi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez important. Et comme tu dis, évidemment, s'il y a des émotions négatives, de la honte, on en parle, c'est complètement légitime. Mais je ferai une méga teuf.
Je suis grave d'accord pour qu'on démocratise la teuf des règles sans que ce soit cringe. Et t'as raison, sans ce truc d'injonction à la féminité, machin. Mais ouais, je trouve ça très cool de faire une grosse teuf, quoi. J'aime beaucoup ça.
Ouais. Une teuf au shampoing, quoi.
Ouais, bah ouais,
bien sûr.
Mais parfait. Avec un Just Dance, avec je sais pas, enfin voilà. Ouais, ouais. Grave.
Bah merci beaucoup en tout cas.
Bah merci à toi. Merci. C'était super poétique, la planète et tout.
J'adore. Ouais, c'est clair, c'est très beau. Vraiment. On est des belles super. Planètes chacune.
Exactement.
Avec nos saisons, nos cycles et tout, j'adore.
Et nos ouragans parfois.
Ouais, ouais. Bien sûr, évidemment. Merci.
Merci.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et que les voix d'Aurélie, Capucine et Cindy vous ont apporté joie et réconfort. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Terres Intimes, à lui mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Ce sont les 3 clés les plus efficaces pour soutenir le projet. Encore un grand merci aux 3 femmes de cette table ronde qui m'ont fait passer un moment aussi chaleureux que magique. Merci également à Théo Carlinet au mixage son et à Didier Meletti pour la musique de Terres Intimes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode sur la place de la lingerie menstruelle dans la vie des femmes. À bientôt.